Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs auditrices de quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. La ministre des Affaires étrangères a discuté de la libération des otages à Manille avec le secrétaire philippin des Affaires étrangères. Le secteur de PME en Indonésie doit améliorer les exportations vers l'Europe. La Chine n'a pas le droit à la terre de pêche traditionnelle dans la zone économique exclusive, l'Indonésie. Selon le ministre Rizal Ramli, l'éducation d'amour de la mer soutient l'axe maritime. L'Indonésie et la Malaisie activent le commerce transfrontalier. La visite la plus élevée des touristes en mai 2016. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a organisé une rencontre avec le ministre philippin des Affaires étrangères, Perfecto Rivas Yasai Jr. à Manille le 1er juillet 2016. Madame Retno Marsudi, dans un communiqué de presse reçu par Radio République Indonésia, a déclaré vendredi que la réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Yasai, est très importante afin de continuer la coopération entre le gouvernement indonésien et philippin pour tenter de libérer les otages. Une bonne coopération qui a été établie par le gouvernement précédent va certainement continuer. Selon la ministre, il y a la compréhension d'intensifier la communication entre les deux ministres des Affaires étrangères afin de libérer les otages. Elle a demandé au gouvernement des Philippines de garantir la sécurité dans les eaux territoriales de la mer de Sulu. Liés aux 7 ressortissants indonésiens qui sont retenus en otage, il a souligné que leur sécurité est une priorité absolue dans les efforts pour libérer des otages. Le secteur macro, petite et moyenne entreprise de l'Indonésie pourrait tirer parti de l'élan du Brexit en augmentant les exportations vers l'Europe. Cet élan doit être aussi maximisé parce que jusqu'à présent, le commerce bilatéral de l'Indonésie avec l'Union européenne donne un résultat positif. L'observateur économique de Indo-Sterling Capital, M. William Henley, a déclaré à Jakarta jeudi, lié à l'Indonésie, au milieu des exportations non pétrolières de l'Indonésie vers le Royaume-Uni en 2015, ont diminué par rapport à 2014. C'est logique s'il devrait y avoir un effort pour augmenter les exportations. William a dit jusqu'à présent, l'Indonésie et l'Union européenne avaient les relations substantielles. L'expert international de droit maritime, M. Hashim Jalal, a déclaré que la zone de pêche traditionnelle étant revendiquée par la Chine dans la zone économique exclusive indonésienne est la chose qui n'est pas vraie. Dans la zone économique exclusive en Indonésie, il n'y a pas de zone de pêche traditionnelle de la Chine. Hashim Jalal, dans la réunion de coordination nationale sur la lutte contre la pêche illégale, le jeudi a également averti que dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne semble pas la zone de pêche traditionnelle, mais le droit des pêcheurs traditionnels. Selon le professeur de droit international de la Faculté de droit de l'Université d'Indonésie, Melda Kamil Aryatno a rappelé que l'Indonésie était un pays, que les frontières sont ouvertes et accessibles partout, donc très vulnérables, violées par les navires étrangers. Vous écoutez le journal de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Affaires maritimes, M. Rizal Ramli, a affirmé que l'éducation d'amour de la mer pour la nation indonésienne était l'un des meilleurs programmes de soutenir la réalisation de l'axe maritime mondial. Qui est-ce qui est fort dans la mer, maîtrise la mer et dominera le monde? Rizal Ramli a apprécié les nombreuses choses qui ont été faites par la ministre de la mer et de la pêche, Mme Susi Pujastuti. Bien que ces choses soient controversées pour certaines parties, mais pour apporter le changement, la controverse est nécessaire. Rizal Ramli a également reconnu la politique du gouvernement d'exposer des navires étrangers qui ont volé en mer de l'Indonésie a produit des résultats positifs pour les pêcheurs traditionnels indonésiens. L'Indonésie et la Malaisie ont convenu de réactiver le commerce transfrontalier. Cela a été discuté dans une réunion du 2e comité conjoint du commerce et de l'investissement Indonésie-Malaisie à Jakarta jeudi. Le ministre indonésien du commerce, M. Thomas Lembong, a affirmé que la Malaisie est le deuxième plus grand partenaire commercial et le partenaire potentiel d'investissement en ASEAN pour l'Indonésie. Selon lui, beaucoup de possibilités qui peuvent être faites pour augmenter le commerce entre les deux pays. Selon Thomas, dans la réunion du comité de commerce et de l'investissement Indonésie-Malaisie, les deux parties avaient discuté de diverses questions de commerce bilatéral et l'investissement de ces deux pays. En 2015, le commerce total des deux pays est élevé à 16 milliards de dollars américains, en baisse de 21,5% par rapport à l'année précédente. Les deux pays veulent que la valeur commerciale entre les deux pays, espérée par le président Joko Widodo et le premier ministre Najib, d'un montant de 30 milliards de dollars américains, puisse être réalisé dans un proche avenir. Le nombre de touristes étrangers en mai 2016 est le nombre de visiteurs par mois le plus élevé dans l'histoire. Le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, vendredi a déclaré que le nombre de touristes étrangers a augmenté significativement en 2016. La majorité est des touristes chinois. Les voyageurs chinois constamment augmenté à une croissance moyenne de 20%. Le nombre de voyageurs chinois visite Bali a battu le nombre de touristes australiens qui a dominé les touristes étrangers à Bali. Selon Arif Yahya, le gouvernement augmentera le nombre d'arrivées de 12 millions de personnes jusqu'à la fin de l'année 2016. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, Le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Cinquième longtemps, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre Post-référendum sur Brexit, l'implication et complication. Le référendum sur Brexit a duré pendant une semaine avec le résultat de plus de citoyens de la Grande-Bretagne qui ont choisi de quitter l'Union européenne. Immédiatement, après avoir su le résultat du référendum, le premier ministre britannique David Cameron a décidé de démissionner et quitter le gouvernement en octobre prochain. Le référendum n'est pas seulement de gagner ou de perdre, mais il a de larges implications pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. Par conséquent, le Royaume-Uni devrait restructurer son gouvernement. Le parti conservateur abandonné par David Cameron comme premier ministre doit être occupé pour déterminer le remplacement de David Cameron. Cette situation affectera l'économie britannique qui est maintenant indiquée de diminuer avec la chute de la livre sterling. Ensuite, le Royaume-Uni doit se battre à nouveau pour surmonter la tourmente économique qui peut se produire en raison de la politique des pays de l'Union européenne qui ne sont pas satisfaits du référendum. Comme les résultats sont connus, le Royaume-Uni est le plus grand bénéficiaire d'investissements des États membres de l'Union européenne. La question est de savoir si la relation économique sera terminée. D'une part, l'initiateur du référendum continuera de trouver une forte influence dans le pays. Nigel Farage semble non seulement faire preuve de complaisance parce que l'idée qu'il inspirait devient finalement la réalité et est soutenue par plus de la moitié des électeurs lors du référendum. D'autre part, le résultat du référendum britannique qui fait enfin le Royaume-Uni comme un pays archipélagique quitte l'Union européenne au moins a apporté un nouveau dynamisme à l'organisation du pacte économique européen. Les groupes d'opposition dans certains pays de l'Union européenne ont été inspirés par le succès de Nigel Farage en Grande-Bretagne. Sur le plan économique, l'Union européenne aurait besoin de faire des calculs prudents avec la sortie du Royaume-Uni. Cela inclut la prise en compte de la politique d'accueil des réfugiés qui inonde plusieurs pays européens et il espère que le Royaume-Uni devrait aussi penser à y faire. L'inspiration de Nigel Farage a un impact réel. Il y a probablement d'autres pays qui effectuent le référendum pour quitter l'Union européenne. L'escalade politique dans le continent sera plus dynamique. Pour l'Indonésie, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne devrait certainement être une considération, bien qu'il y ait une déclaration officielle de l'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, pour garantir qu'il n'y a aucun changement dans la politique du gouvernement britannique. Néanmoins, comme un pays qui ne s'est pas à l'influence de l'économie européenne, le gouvernement indonésien doit prendre en compte le résultat du référendum sur Brexit. Serge, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 1er juillet 1946, la naissance de Bayangkara ou la police indonésienne. La mise en place de la police de la République d'Indonésie ne peut pas être séparée du décret présidentiel numéro 11 en 1946, déterminé à Yogyakarta le 25 juin 1946 par le président Sukarno, à savoir la création de la division de la police de la République d'Indonésie qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1946, qui est ensuite définie comme la journée de Bayangkara ou de la police. Le nom de Bayangkara est tiré de l'histoire des forces de sécurité dans les deux royaumes, à savoir Singhasari et Majapahit au XIVe siècle. Bayangkara et l'effort d'élite dont le travail est consacré à la sécurité des peuples. Bien que les nombres soient petits, les forces de Bayangkara ont de grands noms, surtout à l'époque du royaume de Majapahit, avec le commandant Gajah Mada qui est très célèbre. La transformation est sur l'acte unique européen entre en vigueur le 1er juillet 1987. Signé en février 1986, le traité de l'acte unique européen entre en vigueur. Il apporte des modifications au traité de Rome et donc à la communauté économique européenne CEE. Son objectif est en fait d'accélérer la mise en place du marché intérieur dont l'achèvement est prévu pour décembre 1992. Il est pour cela nécessaire de renforcer les pouvoirs des institutions européennes, Conseil, Parlement et Commission, et d'élargir leur domaine de compétences à l'environnement, à la politique étrangère et à la recherche technologique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Restitution de Hong Kong à la Chine le 1er juillet 1997. Le territoire chinois sous administration britannique depuis 99 ans est rattaché à la République populaire de Chine. À minuit, Hong Kong devient une région administrative spéciale. Certains aspects de l'ancienne colonie britannique sont préservés, tels que le port franc et un système d'économie capitaliste avec liberté dans les transferts de capitaux et politique monétaire autonome. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cinquième longtemps, bonsoir. Voici donc la mise au point ayant pour le titre La loi de l'amnistie fiscale est adoptée. Après avoir été retardé, enfin, le projet de loi sur l'amnistie fiscale est adopté par le Parlement indonésien dans la session plénière à Jakarta, mardi le 28 juin 2016. La loi sur l'amnistie fiscale entre en vigueur à partir du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2017. Le ministre des Finances, Bambang Brojonegoro, comme publié Republika, a déclaré que les fonds provenant de résultats de crimes pourraient entrer dans le pays par l'intermédiaire du système d'amnistie fiscale. Il a expliqué « L'amnistie fiscale ne recherchera pas l'origine des fonds, car jusqu'à présent, le recouvrement des impôts ne demandera pas la source de ces fonds ». Le ministre des Finances, Bambang Brojonegoro, a confirmé que la politique sur l'amnistie fiscale visant à rapatrier des capitaux étrangers ne donnera pas l'amnistie fiscale aux autres criminels en dehors des cas d'impôts, c'est-à-dire seulement les affaires pénales liées aux impôts qui sont en retard de paiement sont pardonnées. Cependant, Bambang Brojonegoro rejette si les données de l'amnistie fiscale sont utilisées pour résoudre les affaires criminelles du contribuable. Le vice-président Yusuf Kalla espère que la loi de l'amnistie fiscale peut fonctionner correctement, si bien que l'objectif de recette fiscale pourrait être atteint. Yusuf Kalla a expliqué, après l'adoption de l'amnistie fiscale, le gouvernement prépare bientôt les règles d'application pour recueillir des fonds de rapatriement. Le vice-président a également demandé aux hommes d'affaires qui sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie pour aider le gouvernement à développer l'économie du pays. Le gouvernement fixe des objectifs des afflux de fonds jusqu'à 5 000 trillions rupiah de rapatriement fiscal des hommes d'affaires indonésiens à l'étranger qui pourraient augmenter les recettes pour le développement. Le vice-président a également rappelé la Chambre de commerce et d'industrie, il y a 25% de la part du gouvernement dans les bénéfices obtenus par des hommes d'affaires payés par l'intermédiaire des impôts. Pendant ce temps, le vice-président du Parlement, Taufik Kurniawan, a bien accepté l'adoption de la loi sur l'amnistie fiscale. Selon lui, l'adoption de la loi est bon moment pour les industriels pour revenir à l'Indonésie et à investir dans la patrie. Taufik Kurniawan a affirmé qu'il est appelé le moment parce que cette loi entre en vigueur seulement 9 mois. Passant de cette période, la loi est plus valide. Serenita, c'était la mise au point de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a organisé une rencontre avec le ministre philippin des Affaires étrangères, Perfecto Rivas Yasai Junior, à Manille le 1er juillet 2016. Madame Retno Marsudi, dans un communiqué de presse reçu par Radio République Indonésie, a déclaré vendredi que la réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Yasai, est très importante afin de continuer la coopération entre le gouvernement indonésien et philippin pour tenter de libérer les Jotas. Une bonne coopération qui a été établie par le gouvernement précédent va certainement continuer. Selon la ministre, il y a la compréhension d'intensifier la communication entre les deux ministres des Affaires étrangères afin de libérer les Jotas. Elle a demandé au gouvernement des Philippines de garantir la sécurité dans les eaux territoriales de la mer de Sulu. Liés aux 7 ressortissants indonésiens qui sont retenus en otage, il a souligné que leur sécurité est une priorité absolue dans les efforts pour libérer des otages. Le secteur macro, petite et moyenne entreprise de l'Indonésie, pourrait tirer parti de l'élan du Brexit en augmentant les exportations vers l'Europe. Cet élan doit être aussi maximisé parce que jusqu'à présent, le commerce bilatéral de l'Indonésie avec l'Union européenne donne un résultat positif. L'observateur économique de Indo-Sterling Capital, M. William Henley, a déclaré à Jakarta jeudi, lié à l'Indonésie, au milieu des exportations non pétrolières de l'Indonésie vers le Royaume-Uni en 2015, ont diminué par rapport à 2014. C'est logique s'il devrait y avoir un effort pour augmenter les exportations. William a dit, jusqu'à présent, l'Indonésie et l'Union européenne avaient les relations substantielles. L'expert international de droit maritime, M. Hashim Jalal, a déclaré que la zone de pêche traditionnelle étant revendiquée par la Chine dans la zone économique exclusive indonésienne est la chose qui n'est pas vraie. Dans la zone économique exclusive en Indonésie, il n'y a pas de zone de pêche traditionnelle de la Chine. Hashim Jalal, dans la réunion de coordination nationale sur la lutte contre la pêche illégale, le jeudi, a également averti que dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne semble pas la zone de pêche traditionnelle, mais le droit des pêcheurs traditionnels. Selon le professeur de droit international de la faculté de droit de l'Université d'Indonésie, Melda Kamil Aryatno a rappelé que l'Indonésie était un pays, que les frontières sont ouvertes et accessibles partout, donc très vulnérables, violées par les navires étrangers. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Affaires maritimes, M. Rizal Ramli, a affirmé que l'éducation d'amour de la mer pour la nation indonésienne était l'un des meilleurs programmes de soutenir la réalisation de l'axe maritime mondial. Qui est-ce qui est fort dans la mer maîtrise la mer. Il dominera le monde. Rizal Ramli a apprécié les nombreuses choses qui ont été faites par la ministre de la mer et de la pêche, Madame Susi Pujastuti. Bien que ces choses soient controversées pour certaines parties, mais pour apporter le changement, la controverse est nécessaire. Rizal Ramli a également reconnu la politique du gouvernement d'exposer des navires étrangers qui ont volé en mer de l'Indonésie a produit des résultats positifs pour les pêcheurs traditionnels indonésiens. L'Indonésie et la Malaisie ont convenu de réactiver le commerce transfrontalier. Cela a été discuté dans une réunion du 2e comité conjoint du commerce et de l'investissement Indonésie-Malaisie à Jakarta jeudi. Le ministre indonésien du commerce, M. Thomas Lembong, a affirmé que la Malaisie est le deuxième plus grand partenaire commercial et le partenaire potentiel d'investissement en ASEAN pour l'Indonésie. Selon lui, beaucoup de possibilités qui peuvent être faites pour augmenter le commerce entre les deux pays. Selon Thomas, dans la réunion du comité de commerce et de l'investissement Indonésie-Malaisie, les deux parties avaient discuté de diverses questions de commerce bilatéral et l'investissement de ces deux pays. En 2015, le commerce total des deux pays est élevé à 16 milliards de dollars américains, en baisse de 21,5% par rapport à l'année précédente. Les deux pays veulent que la valeur commerciale entre les deux pays, espérée par le président Joko Widodo et le premier ministre Najib, d'un montant de 30 milliards de dollars américains, puisse être réalisé dans un proche avenir. Le nombre de touristes étrangers en mai 2016 est le nombre de visiteurs par mois le plus élevé dans l'histoire. Le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, vendredi a déclaré que le nombre de touristes étrangers a augmenté significativement en 2016. La majorité est des touristes chinois. Les voyageurs chinois constamment augmenté à une croissance moyenne de 20%. Le nombre de voyageurs chinois visite Bali a battu le nombre de touristes australiens qui a dominé les touristes étrangers à Bali. Selon Arif Yahya, le gouvernement augmentera le nombre d'arrivées de 12 millions de personnes jusqu'à la fin de l'année 2016. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé Le musée de police à Jakarta. Le 1er juillet est célébré comme la journée Bayangkara en Indonésie. Elle n'est pas la journée de la naissance de la police, mais la journée de la police nationale qui est marquée par le lancement du règlement présidentiel numéro 11 l'année 1946. Avant le règlement est sorti, la police était composée de la police régionale. Ce règlement présidentiel unit la police nationalement et sous directement le président. Concernant la journée Bayangkara dans ce pays, je vous invite à visiter le musée de la police situé à Jakarta. Le musée de la police est situé à Jalan Trunojoyo, numéro 3, Kebayoran Baru, Jakarta Sud. L'idée de la construction du musée est initiée par le chef de la police, le général Bambang Hendarso Danuri, dans le but de préserver les valeurs historiques de la police de la République d'Indonésie. Le musée a été inauguré le 14 février 2001 par le président de l'Indonésie, Abdurrahman Wahid, pour encourager l'esprit dans le développement de la police professionnelle et aimée par les gens. Le musée de la police est ouvert pour le public du mardi jusqu'au dimanche, de 8h jusqu'au 15h. Et il est gratuit pour y entrer. Vous laissez simplement une carte d'identité et laissez les bagages dans le hall d'entrée. L'architecture du bâtiment du musée de la police est semi-moderne, avec la conception du bâtiment des années 70 et les fenêtres modernes donnent l'impression d'un classique moderne. Comme les musées en général, le musée de la police dispose de plusieurs salles d'exposition. Il y a une salle d'exposition et d'événements. Dans cette salle, il est exposé diverses collections de matériel et d'outils principaux de police nationale indonésienne. Entre autres, les photos de l'ancien chef de la police qui peuvent être une source d'inspiration pour tout le monde. Au deuxième étage du musée, vous pouvez entrer dans la salle d'unité, la salle de symboles de la police, la salle d'héros, la salle de l'application de la loi, la salle de laboratoire, la salle d'identification ou imprimante digitale et le coin des enfants pour les enfants. Dans cette salle, les enfants recevront des informations sur les fonctions et les tâches de la police dans la communauté avec une façon amusante grâce à une variété de jeux éducatifs. Au deuxième étage, on présente entre autres l'action des forces de police dans la lutte contre le terrorisme et la miniature du monument Gorom dans la mémoire de l'implication de la police pendant l'opération Tricora en 1962. Au troisième étage, il y a une bibliothèque, la salle d'exposition temporaire et la salle audiovisuelle. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le magazine culturel intitulé « Le musée de police à Jakarta ». Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans le programme L'Indonésie en couleurs. Chers auditeurs, ce jour, le 1er juillet, habituellement, le peuple indonésien commémore et célèbre le jour de Bayangkara. Pour animer l'anniversaire de Bayangkara, de nombreuses activités menées au bureau de la police en Indonésie. L'un d'eux est le bureau de la police de resort de Banyumas, Central Java. L'Indonésie en couleur pour ce soir a pour thème le concours de créativité du costume de robot au bureau de la police resort de Banyumas, Central Java. Chers auditeurs, l'origine de la formation de la police en Indonésie est déjà là dans l'époque du royaume de Majapahit. À cette époque, Mahapatih, le premier ministre Gajah Mada, a formé les forces de sécurité appelées Bayangkara. Les forces Bayangkara ont les tâches de protéger le roi et le royaume. Lorsque l'occupation japonaise et néerlandaise, les forces de sécurité régionales est encore le régionalisme est fragmenté. 4 jours après l'indépendance, précisément le 21 août 1945, les forces de police a immédiatement proclamé fermement comme force de police de la République d'Indonésie, dirigée par l'inspecteur de classe 1 au lieutenant police Muhammad Yassin à Surabaya. Les premières étapes de force de police de la République d'Indonésie sont en plus de faire le nettoyage et le désarmement des soldats japonais qui ont perdu la guerre, soulève également l'esprit moral et patriotique de tous les peuples et les unités armées qui ont été touchés par la dépression et le vaincre de la longue guerre. Pour unir ces forces, il a été publié le règlement présidentiel numéro 11 en 1946 sur le 1er juillet 1946. Le 1er juillet est célébré chaque année comme la journée Bayangkara par la société indonésienne aujourd'hui. Pour animer le 70e anniversaire de Bayangkara, la police de Banyumas a organisé un concours d'innovation, la technologie applicative KITA. Ce concours vise à encourager les gens qui sont expérimentés la technologie pour innover des idées créatives soutenant les fonctions de police. Selon le chef de la police de ressort de Banyumas, AKBP Gideon Arif Hassan, ce concours est une arène créative des amateurs de technologie de l'information à participer à aider les tâches de police, en particulier la police de Banyumas. Parce qu'à un moment, la police de Banyumas a été basée sur la technologie de l'information dans ses services au public. Serviteurs, en plus de la course pour les amateurs de la technologie de l'information, KITA, on organise également un concours de créativité de faire un costume de robot à l'aide de matériaux de rebut tels que le carton, le mica, stéréoforme, journaux et autres, avec le thème « Police, mon héros ». Le concours est destiné aux élèves de l'école secondaire à Banyumas. Le concours de faire le costume de robot comme une place de créativité et un divertissement à la communauté pour faire campagne Jimat ou Dadi Siji Karo Masyarakat en langue javanaise ou unir avec la communauté en français. Et Turnback Crime où la police avec la communauté joue un rôle actif pour créer une situation de la sécurité, l'ordre public Kamtipmas qui est sûr et propice. Le gagnant des deux concours seront affichés pendant le pic d'événement du 70e anniversaire de Bayangkara, le 1er juillet de la police de Banyumas. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de Pelangi Dada ou magazine de musique avec moi, Muhammad Soehartono. Ce soir, comme chaque vendredi, on vous présente le rythme de dangdut. Et à cette occasion, on vous parle de chanteuse Ayu Soraya. Comme le début de notre rencontre, allez écouter la première chanson de Ayu Soraya, intitulée « Menanti kehadiran ». Bonne écoute. Chers fidèles amis, Ayu Soraya est chanteuse indonésienne qui est connue aux années 90. Avec sa douce voix, elle a beaucoup de fans ainsi que ses chansons sont populaires. Pour être populaire, elle fait le tour, beaucoup de places. Et autre comme chanteuse, Ayu Soraya est déjà essayée dans la vie politique. En 2008, elle était le candidat pour la maire de la ville de Tegal en province de Java de Central. Avec son collègue Basri Budi Utomo, dans la campagne, ce couple lance la question de gendre. Mais hélas, Ayu Soraya et son collègue n'ont pas de sens dans cette sélection. Chers amis, avant de continuer, allez encore écouter la chanson de Ayu Soraya intitulée « Kangen Berat ». Bonne écoute.
Bye.
Chers fidèles amis, les activités d'Ayu Soraya sont très occupées. Autre chanté, il est aussi comme le chef de département social de l'Association des chanteurs et musiciens de dangdut de l'Indonésie. Et puis, il s'occupe aussi le groupe de dangdut Bunga Rampai qui se compose avec ses amis Rani Rusdi, Rani Bule, Jenny Anjani. Il est aussi comme président de l'Association des chanteurs et composeurs et musiciens de l'Indonésie. Voilà les activités de Ayu Soraya. Chers amis, c'était l'histoire de Ayu Soraya dans le magazine de musique. Merci beaucoup de votre fidélité et attention. Au revoir. Mais avant de terminer, écoutez d'abord deux dernières chansons de Ayu Soraya intitulées Jeritan Hati.
Buat hatimu, hatau bila
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.